Europe 1, en balade avec Anne Hidalgo, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. À partir de demain, les restaurants, les cafés, les parcs et jardins vont ouvrir dans toute la France. Et c'est avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, que nous partons en balade aujourd'hui. Comment a-t-elle vécu cette période de confinement qu'aucun auteur de science-fiction n'avait imaginé? C'est ce qu'elle va nous raconter. Elle nous a donné rendez-vous au bord du canal Saint-Martin, devant le jardin Villemain.
Frédéric Taddeï se balade avec Anne Hidalgo sur Europe 1.
Bonjour Anne Hidalgo.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Alors je préviens tout de suite nos auditeurs que vous avez un masque.
Oui, alors ça va se voir, non, s'entendre, oui.
Voilà, c'est vrai voilà. Que vous dites à tout le monde qu'il faut porter un masque.
Voilà,
donc,
j'essaye.
Vous portez un masque.
J'essaye de donner l'exemple.
Voilà, donc nous allez donner rendez-vous devant le jardin Villemain.
Oui.
Pourquoi ce jardin?
Ce jardin, d'abord, c'est un combat de plein d'associations, de plein d'élus pour avoir un peu de vert au cœur de Paris, au bord du canal. C'est la reconquête du canal, mais c'est aussi plein d'histoires parce que ce coin est aussi l'endroit où les réfugiés afghans étaient arrivés il y a de très nombreuses années. Je n'étais pas encore maire. Donc, il a été un lieu quand même de campement, un lieu de mobilisation citoyenne. Et puis aujourd'hui, c'est quand même ce renouveau de Paris, d'une vie de citadin qui cherche la verdure, le bord du canal et qui conjugue l'histoire et en même temps sûrement une grande modernité dans leur mode de vie.
Et puis c'est un jardin qui rouvre ce week-end. Donc,
oui, en plus.
Et Dieu sait si vous avez réclamé la réouverture du jardin dans Paris.
Ouais.
Ça y est, il rouvre. Mais ouais. Alors pour moi, c'est un jardin qui a aussi une histoire encore plus ancienne.
Ouais.
C'est qu'ici, il devait y avoir un échangeur autoroutier.
Absolument, ça faisait partie de cette histoire en gros les années 60, hein, pour aller vite, où on disait qu'il fallait adapter la ville à la voiture.
Voilà, il y avait un grand plan autoroutier
dans Paris.
Qui devait relier Paris aux villes nouvelles. À l'époque,
absolument.
C'était l'avenir, c'était les villes nouvelles, Paris 2, Saint-Gilles-Pontoise. Et ici, il aurait dû y avoir un échangeur d'autoroute. On n'y croit pas quand on y pense.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des endroits comme ça. Il y a, loin d'ici, dans le 15e, il y a le square Béla-Bertoc, qui était aussi l'arrivée de cet échangeur. Donc, je pense que ça devait être le même, d'ailleurs. Non, c'est très bien de voir que ce sont des jardins et non pas des autoroutes.
Quand on regarde ce jardin qui rouvre enfin, je crois que la surface des parcs et jardins dans Paris, c'est 8%, je crois. C'est ça, vous avez
corrigé. Oui, c'est autour de 8%.
Quand on y pense, hein. Quand tout est fermé, on perd 8% de la surface de Paris.
On perd 8% de la surface de Paris. Et comme on est quand même dans une ville extrêmement dense, on a quand même 20 000 habitants au kilomètre carré à Paris. Certains quartiers, je pense au 11e, pas loin d'ici, c'est presque 40 000 habitants au kilomètre carré. Donc si on leur retire ces 8%, ça devient étouffant, quoi. Ça devient très très difficile à vivre.
Frédéric Taddeï se balade avec Anne Hidalgo sur Europe 1.
On est le long du canal Saint-Martin. Il y a d'ailleurs des gens qui prennent le soleil au bord de l'eau.
Oui.
Ils ne sont pas trop nombreux. Ils respectent les distances.
Ils sont... Voilà. Moi, j'ai trouvé d'ailleurs que les Parisiens étaient quand même très raisonnables parce que ce n'était pas facile d'être confiné dans une ville aussi dense que la nôtre sans avoir d'accès aux parcs et jardins. Et donc, c'est vrai que le canal ici, le canal Saint-Martin, a été assez vite un endroit et de promenade et comme il a fait très beau et qu'il fait encore très beau aujourd'hui, mais les gens sont raisonnables, ils sont...
En même temps, le jour du déconfinement, toute une partie de la jeunesse s'est réunie ici, s'est retrouvée ici, puisque c'était d'abord un lieu de fête hein, pour les jeunes, le quai de Vanimé et Canal Saint-Martin, et avant que la police ne les évacue, rapidement, et que le ministre de l'Intérieur n'interdise la consommation d'alcool sur les berges.
Oui.
Vous étiez d'accord, vous ?
Sur la consommation d'alcool, oui, parce que bon, là, c'était quand même compliqué. Sur le fait d'évacuer, il fallait offrir des alternatives qu'on n'avait pas, puisque les parcs et jardins étaient fermés. Et je regrette qu'on n'ait pas pu, à l'époque, travailler plus intelligemment avec l'État pour permettre justement de desserrer un peu tous ces lieux comme le canal Saint-Martin. Mais bon, c'est derrière nous.
Les parcs. En même temps, vous avez vécu quelque chose d'assez incroyable. On l'a tous vécu, hein, ce confinement. Ouais. Vous, en tant que maire d'une des plus grandes villes du monde, et la plus grande ville de France, ouais. vous avez dû vivre ça de manière sans doute encore plus intense. À chaque fois se pose la question, en matière de sécurité, notamment de sécurité sanitaire, c'est en faire trop ou pas assez ?
C'est vrai.
Vous étiez pour la rouverture des parcs et jardins, l'État était contre.
Oui.
Vous étiez... L'État voulait rouvrir les écoles, vous pensiez qu'il fallait plutôt attendre ?
Oui et non, parce qu'en fait, d'abord, je pense que quand on est face à quelque chose de totalement inconnu, nouveau, énorme, comme ce qui nous est arrivé avec ce coronavirus et ce confinement, il faut être... Merci ! Il faut être capable de discuter et de trouver les bonnes solutions en bonne intelligence. Ce qu'on a quand même fait globalement avec l'État, avec les préfets, qui sont les interlocuteurs.
On ne sait jamais qui a le pouvoir. Dans ce cas-là, souvent, c'est le préfet de police, hein, plus que le maire de Paris.
Souvent, et surtout dans une période de crise, là, c'est le préfet de police qui a vraiment... qui a le pouvoir qui lui est conféré par la loi, d'ailleurs la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Et donc, est-ce qu'on en fait trop, est-ce qu'on n'en fait pas assez? Je pense qu'au début, évidemment, ce qui nous a tous guidés, c'est le principe de précaution. Mais j'avais eu l'occasion de discuter avec beaucoup de médecins. Je préside aussi la commission de surveillance des hôpitaux de Paris. Donc j'étais vraiment aussi en lien avec tous ceux qui travaillaient sur l'épidémie, tous les infectiologues, etc. Et l'idée que le confinement soit sévère, pour moi, c'était une évidence. Il fallait vraiment qu'on soit sur un confinement sévère. Mais à partir du moment où on est rentré dans le déconfinement, il fallait des mesures qui soient justes aussi. Ouvrir les parcs et jardins avec le port du masque, avec un certain nombre de principes, de gestes barrières, c'était beaucoup moins risqué que de laisser les gens s'entasser sur des lieux où finalement ils n'avaient pas de place et ils étaient les uns sur les autres. Mais bon, on en est sorti.
On se retrouve dans un instant avec Anne Hidalgo dans Paris.
Frédéric Taddeï se balade avec Anne Hidalgo sur Europe 1.
Nous sommes en balade avec Anne Hidalgo le long du canal Saint-Martin, un canal Saint-Martin ensoleillé où des couples sont assis, regardent l'eau, nous regardent aussi. Est-ce que les gens vous reconnaissent beaucoup en dépit
oui,
de votre masque,
en dépit
parce
du
que
masque.
Vous portez un masque.
En dépit du masque. Et même quand j'ai un casque de vélo, voilà, ils me reconnaissent aussi. Donc là, c'est fini. Je ne peux plus être incognito.
Quelle a été votre impression profonde, j'entends, quand vous vous êtes retrouvé dans Paris, parce que vous avez continué de circuler,
oui,
les nécessités le voulaient, pendant le confinement, dans un Paris comme on ne l'avait jamais vu dans toute l'histoire. Hein, un Paris désert, vitrines fermées, restaurants fermés, personne dans les rues, le jour comme la nuit.
Ouais. C'était très dur, c'est très, très triste aussi, très angoissant, parce qu'on se dit une ville qui se met à l'arrêt... avec en plus ce sentiment que toute vie a disparu puisqu'il n'y a plus personne dehors.
Un sentiment de désolation.
Sentiment de désolation. Puis en plus, ça coïncidait quand même encore avec l'hiver. Moi, j'ai ces images du début du confinement. Il faisait gris, froid, c'était désert, c'était horrible. Ça, c'est vraiment, c'était extrêmement déprimant et angoissant. Et puis, petit à petit, quand le printemps a commencé à arriver, on allait aussi vers le déconfinement. Il y avait quelque chose qui coïncidait entre les feuilles des arbres qui commençaient à apparaître et peut-être un peu de lueur et d'espoir dans ce qu'on était en train de vivre.
Alors, on n'avait jamais vu ça. Il n'y avait pas de protocole, il n'y avait pas de modèle. On n'avait jamais confiné une ville, encore moins un pays, encore moins la moitié de la planète.
Oui.
Le seul modèle, au fond, c'était la Chine,
hein.
qui est quand même la plus grande dictature, et on s'en est inspiré. Quelle responsabilité pour ceux qui sont aux commandes à ce moment-là, et vous en faites partie. Vous êtes la maire de Paris, et voilà, on est tout à coup dans une situation qui ressemble quand même terriblement à une dictature sanitaire, provisoire, une dictature.
En fait, quand le drame a commencé aussi en Chine, je me souviens, j'avais regardé beaucoup, questionné beaucoup, Et je me souviens d'une discussion avec Martin Hirsch, président, directeur général des hôpitaux de Paris. Et je lui disais, Martin, tu imagines un truc comme ça chez nous qu'est-ce qui se passe si ça nous tombe dessus dans quelques semaines? Et évidemment, on avait tous en tête le problème des hôpitaux qui devaient résister. Et moi, je me disais, je n'imagine pas qu'on puisse demander aux gens de rester chez eux et que les gens, d'ailleurs, ne sortent plus de chez eux.
Et on disait toujours les Français indisciplinés.
Absolument.
En fait, du jour au lendemain, tout le monde est resté chez eux.
Tout le monde est resté. Donc, la responsabilité, c'est de poser les actes qu'il faut, mais d'anticiper toujours. C'est-à-dire qu'au moment où on entame le confinement, j'ai eu la chance de pouvoir discuter longuement avec Philippe Klein, qui était le médecin français qui était encore à Wuhan à ce moment-là, et qui m'a donné des bons conseils. Il m'a expliqué comment ça se passait, ce qui se passait, ce qui pouvait être adapté à Paris, justement, qui pouvait tenir compte de l'esprit français et des différences avec la Chine. Mais il m'a donné des très très bons conseils. Donc à partir de là, mon rôle de maire, ça a été de dire d'abord il faut protéger les plus fragiles. Et donc de regarder tout ce qu'il fallait faire pour à la fois nos anciens, qui étaient soit dans des EHPAD, soit chez eux, mais faire en sorte qu'ils ne soient pas isolés. Travailler aussi à la protection des SDF, parce qu'à un moment donné, la question qui se posait, c'est comment on apporte aussi de quoi les alimenter, parce que...
Il faut dire qu'on les voyait plus que jamais. Oui. J'ai pris la rue de Rivoli, on pouvait encore y rouler en
c'est
voiture.
Vrai.
À l'époque, on
c'est
en parlera. On en parlera. Et dans la rue de Rivoli déserte, il n'y avait plus que des SDF sous
c'est
les
vrai.
Arcades. On ne voyait plus qu'eux.
Oui, ils étaient venus... Du coup, vers le centre, on a ouvert des lieux pour eux. D'ailleurs, avec l'État, ça s'est très bien passé parce que très vite, on s'est dit qu'on ne pouvait pas non plus recréer ou créer des énormes clusters. Donc, on a fait en sorte qu'il puisse y avoir du dépistage et que ceux qui étaient des Covid+, aillent vers des centres pour ne pas contaminer les autres. Donc, il y a eu tout ce travail-là, mais il y avait beaucoup de SDF qui... ne voulaient pas aller vers les centres d'hébergement et les solutions qui parfois leur étaient proposées et qui sont restées essentiellement dans le centre de Paris et qui ont pu, pour un certain nombre d'entre eux, bénéficier quand même de nos maraudes avec les associations, avec la Croix-Rouge, avec la protection civile. On a distribué quand même 17 000 repas par jour pendant toute la période du confinement. Donc la protection des plus fragiles, ça a été quand même la première des préoccupations. Et puis aussi, bien sûr, accompagner des familles. Il y avait beaucoup de familles qui se sont retrouvées en situation très difficile financièrement. Donc il a fallu inventer, de façon très rapide,
oui.
des tas d'aides. Et en fait, les Parisiens sont quand même très créatifs, ce qui aide beaucoup à inventer.
Ah, on en a vu d'autres.
Hein.
Je vous interromps, on se retrouve dans un instant, Anne Hidalgo.
Merci.
Frédéric Taddeï se balade avec Anne Hidalgo sur Europe 1.
On se retrouve maintenant avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, rue Alibert, au coin de la rue Bichat, devant le Carillon. Je disais, Paris en a vu d'autres, vous aussi vous en avez vu d'autres avant le confinement,
oui.
notamment les attentats et évidemment ici c'est le Carillon, pas loin il y a le petit Cambodge juste
oui,
en face,
c'est là.
C'est là qu'ont eu lieu des fusillades le 13 novembre oui. 2015 qui avaient fait 15 morts dans un quartier où voisinent des populations de toute origine.
Hein, Oui, c'est un quartier qui est génial, hein. On est à côté de l'hôpital, c'est un quartier où...
Il y a des motos aussi.
Il y a même des motos, comme quoi. Non, c'est un quartier où vivent beaucoup de familles. Parfois, on dit que c'est un quartier de bobos. En fait, c'est un quartier très, très mélangé et avec des gens d'origine sociale très différente, qui est très ouvert. Ça fait partie de ces quartiers généreux quand même de Paris, où les gens aiment faire la fête, des quartiers relativement jeunes. Et c'est vrai que revenir ici, c'est toujours... toujours très émouvant pour moi parce que...
D'autant plus émouvant que, aussi bien le carillon est fermé.
Oui, là oui.
Le petit Cambodge, on peut
ils
acheter...
Ils sont en train de se préparer. Oui, ils sont... visiblement, ils ont déjà ouvert. Là.
Voilà, ils commencent puisque tout rouvre.
Voilà.
Mais, tout rouvre ouais. à partir de lundi, ouais. mais à partir de demain. Ouais. Mais,
ils sont en train de rôder là, visiblement.
Vous parliez au moment où tout a été fermé pour cause de confinement. Vous avez protégé les plus faibles, mais tout à coup, c'est tous les restaurants, tous les bars, tous les cafés qui sont fermés. Oui. Là, on se dit, on joue aux apprentis sorciers quand on ferme tout, et pas seulement en France, partout.
Bien sûr.
On ne sait pas ce que ça va donner.
Non.
Et on ne le sait toujours pas, d'ailleurs, encore non. aujourd'hui. On ne sait pas quelle crise on a fabriqué de toutes pièces, au fond.
Elle va être violente, d'ailleurs, la crise qui vient derrière, là, sur... qui va être une crise économique et sociale très très importante avec beaucoup de chômage, hein, ça c'est clair. En fait, c'est étrange, quoi. Vous mettez la ville sur un mode pause et puis vous appuyez sur un bouton pour réinitialiser, hein. C'est un peu ça. Sauf que c'est pas une machine, c'est pas un appareil, c'est de l'humain, ce sont des choses beaucoup plus subtiles et complexes. Mais c'est vrai que là, en fait, ce qu'on vit un peu, c'est... Enfin, je pense que tout le monde a encore cette inquiétude, a vécu ce confinement, sûrement de façon intime. Hein, chacun l'a vécu très différemment. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre, non pas de la renaissance, mais quand même de l'espoir, l'avenir, le soleil, l'été, peut-être l'épidémie qui s'en va. Et cette idée qu'on se relève, sans oublier ce qui s'est passé, mais qu'on se projette quand même vers l'avenir. Moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui dans Paris.
Là, on longe l'hôpital Saint-Louis, qui a été créé par Henri IV pendant l'épidémie de peste.
Hein,
oui. Et il l'a baptisé Saint-Louis en souvenir de Louis IX, qui était lui-même mort de la
oui,
peste.
Oui.
Quelle leçon vous tirez-vous de cette épidémie ?
Je pense que c'est un peu tôt encore pour tirer des enseignements sur ce qui s'est passé dans la tête de chacun. Mais je pense que les Français, les Parisiens... vont sûrement sortir très modifiés. Ce que je ressens, là c'est plutôt de l'ordre de mon intuition, c'est qu'en fait l'ordre des priorités, le sens de la vie sont un peu chamboulés, et tant mieux d'ailleurs, parce que j'entends beaucoup autour de moi, des jeunes, des moins jeunes, dire, bon, vu ce qui s'est passé, vu finalement notre vulnérabilité collective, c'est sans doute... un autre modèle qu'il faut aussi inventer, et des gens qui fixent les priorités différemment. Quand vous avez expérimenté le travail chez vous, le télétravail, et que finalement vous avez quand même pu aussi profiter de votre famille, de vos proches, redécouvrir peut-être une relation avec eux, ça vous remet les choses dans un autre, dans d'autres perspectives. Donc je pense que ça va... profondément, certainement, changer l'état d'esprit du pays et d'une ville comme Paris. Et après, ça va changer parce que dans nos modes de vie, oui, il va falloir s'adapter, continuer à s'adapter parce qu'on va vivre quand même avec le virus là pendant encore quelques mois, voire quelques années.
Il y a une chanson, je trouve... qui est une chanson du déconfinement, bien qu'elle ait été écrite par Charles Trenet en 1947,
ouais.
C'est Revoir Paris.
Ouais.
Il revenait d'une longue tournée en Amérique, ouais. au Canada plus particulièrement. Il avait écrit cette chanson.
Magnifique chanson.
Et c'est une chanson qui marche bien aujourd'hui,
ouais.
hein, quand on regarde, quand on traverse Paris comme nous sommes en train de le faire.
Europe 1, 11h30, en balade avec Anne Hidalgo, Frédéric Taddeï.
Revoir Paris. Un petit séjour d'un mois. Revoir Paris. Et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard. Prendre un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison de banlieue où ma mère m'attend. les larmes aux yeux, le cœur content. Mon Dieu, que tout le monde est gentil. Mon Dieu, quel sourire à la vie. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci d'être ici. Ce n'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ces gens, tous ces braves gens de la Varenne et de nos gens. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne vermeil. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais, je suis un petit français, rien qu'un enfant, tout simplement.
C'était Revoir Paris, chanté par Charles Trenet en 1947. On se retrouve avec Anne Hidalgo juste après ça. Nous entrons à présent avec Anne Hidalgo dans la rue Sainte-Marthe. On est toujours dans le 10e arrondissement. La rue Sainte-Marthe avec ses façades de toutes les couleurs. Je croirais un peu dans le quartier de la Boca à Buenos Aires.
Hein, c'est vrai.
Qui était peuplé au départ d'immigrés italiens. Ici, c'est le 19e siècle. Hein, c'était une des premières cités ouvrières. Oui. Tous ces immeubles en faisaient partie. Et aujourd'hui, toutes les façades des ateliers sont peints avec des couleurs vives.
C'est un beau quartier. C'est un quartier qu'on a réhabilité. Je n'étais pas encore maire il y a plusieurs années. Et là, maintenant, il y a une pression très, très forte. On est en train de se battre avec les habitants, avec les commerçants, d'ailleurs les artisans, pour que ça reste vraiment un quartier tel qu'il est aujourd'hui. Il y a des promoteurs intéressés à cette ville-là, mais sans doute à gagner beaucoup d'argent, qui ont essayé de faire main basse. Et on se bat avec les habitants pour empêcher ça. Voilà. Mais c'est un quartier génial. Il y a beaucoup de disquaires, d'ailleurs.
Ouais.
On fait souvent le Disquaire Day ici, avec des concerts sur la petite place. Et c'est un endroit magnifique.
Le risque de ce genre de quartier, c'est qu'il devienne un quartier touristique. Parce que fatalement, ça attire beaucoup de touristes. C'est vraiment indispensable à l'équilibre de la ville que Paris attire autant de touristes. Alors, il n'y en a plus en ce moment.
Et, là, il n'y en a plus.
Et j'imagine que vous souffrez.
On souffre économiquement.
C'est la première destination touristique mondiale. Hein. Il y a eu en 2018, je ne sais pas, il y a eu 2 800 000 Américains qui sont venus, 2 millions de Britanniques, 1 200 000 Chinois.
Oui. Bon, c'est clair que Paris a besoin du tourisme pour vivre, parce qu'une grande partie de ses emplois en dépendent.
Mais
pas autant que ça. Je pense que, justement, cette crise aussi, elle remet un peu les pendules à l'heure sur la nature du tourisme, du voyage. J'ai jamais été très fan du tourisme dit de masse. Et là, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur... comment vont se réorganiser tous ces voyages touristiques à l'échelle internationale et quelle sera la place de Paris. À la fois, on continuera, je pense, à attirer beaucoup de monde parce que c'est la plus belle ville du monde, d'abord.
Oui, rien que cette place, la place Sainte-Marthe, c'est une des plus jolies places de Paris. Elle
c'est
est très
beau,
peu connue.
Hein, ouais.
Mais on se dit, au même temps, qu'elle reste peu connue.
Oui, c'est vrai.
Parce que ça devient la place du tertre.
Non, ça ne le sera pas. En fait, ce quartier est touristique, mais pas... Il n'est pas envahi de touristes, il est plutôt...
Là, ça va encore. Mais vous voulez, je crois...
Il y a le galopin, ça va ?
Oui,
ouais, ça y est, vous vous préparez ?
Bonjour. Ouais, on espère. Ouais. On espère que surtout les rues vont être piétonnes.
Vous allez pouvoir vous mettre sur la place.
Bah ça, on attend la décision de la mairie.
On
croise les doigts.
On est pour, je vais en parler
demain.
Oui, je sais,
c'est ce que j'ai cru comprendre.
Mais là, si vous vous entendez avec tous vos collègues, on peut même imaginer de fermer les rues autour, là, hein, de temps en temps.
Bah, le week-end, ouais, et puis essayer essayer d'avoir des horaires, c'est pour les riverains aussi, peut-être.
Bien sûr. L'idée, ça sera à 22h30.
C'est très important de trouver voilà, exactement. C'est ce que je pense.
L'équilibre entre le bruit.
C'est la charte qu'on va vous proposer.
C'est ça qui est toujours compliqué, quoi. Donc, c'est que tout le monde soit content. Et puis.
On mange bien, là.
On arrive à pas dépasser les horaires. Donc, si on se dit, je pense que ça sera décidé.
À Paris, on n'ouvre que les terrasses. Hein, donc, il faut
que. Ouais, donc c'est vrai que moi, là, c'est tout petit. J'ai aussi la cave à Michel. C'est uniquement un bar à vin. Pardon, uniquement debout. Et là, pour le coup, je ne peux pas exploiter. Non, donc, c'est vrai que si... Donc, voilà.
Non, vous pourrez, parce que là, en plus, la configuration est géniale pour ça. Et l'idée, c'est qu'il y ait une charte, quand même, sur les horaires, sur le bruit, la propreté.
Oui, bien sûr.
Mais ça, je sais que vous serez partant.
Eh bien, merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.
Europe 1, 11h30, en balade avec Anne Hidalgo, Frédéric Tadéhi.
Vous voulez toujours piétoniser les 4 premiers arrondissements de Paris ?
Oui.
Pourquoi ?
En fait, ce n'est pas vraiment une piétonisation, mais c'est quand même donner la priorité aux piétons, aux cyclistes. Et puis après, évidemment, autoriser, il y aura des commerçants, il y a des gens qui ont besoin de se déplacer.
Non, parce que vous savez ce que c'est le problème des quartiers piétons ou des rues piétonnes. C'est que partout dans le monde, elles se ressemblent, elles attirent les mêmes enseignes.
Absolument,
même tourisme de masse, y compris le tourisme des locaux, des gens du pays ou même de la ville. Mais tout à coup, ça devient toc.
Non, je suis
d'accord
avec vous.
Une rue piétonne, un quartier piéton, c'est le contraire de la ville, au fond.
Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que ce n'est pas de la piétonisation... vraiment
féroce.
À proprement parler, c'est-à-dire il faut de toute façon qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait des possibilités de mobilité. Après, ce qu'il faut qu'on réduise, c'est quand même la place de la voiture individuelle polluante. Évidemment qu'on a besoin de se déplacer aussi en voiture, mais que le taxi, que la voiture partagée soit une alternative à la voiture du chacun pour soi. Et je vous assure que rien que ça va réduire fortement et le trafic et la pollution sans aller vers ce que vous décrivez, que je n'aime pas non plus. Rome avec ses quartiers piétons, j'adore Rome, mais les quartiers piétons de Rome, c'est pas mon modèle. Voilà.
Alors évidemment, la Paris des années 60, celui qu'on évoquait tout à l'heure avec le grand plan autoroutier, qui a été arrêté par Valéry Giscard d'Estaing quand il est devenu président, et dont il ne restait que les voies sur berge. Vous avez fermé la dernière.
La dernière.
C'était ce qui restait du plan autoroutier à l'époque.
C'est vrai.
Il fallait ouvrir la ville à la voiture. Vous êtes plutôt dans la ligne de fermer, ou en tout cas d'amoindrir place... de la voiture dans la ville, à tel point que vous essayez de décourager les automobilistes de prendre leur voiture.
Vrai.
C'est ça votre politique, au fond.
Mais en offrant des alternatives.
Oui,
voilà.
Les circulations fluides, ce que vous appelez les vélos,
actives.
Les trottinettes, les piétons. En même temps, ça vous a attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de rockers.
Oui,
je pense souvent
à
vous quand je suis dans l'embouteillage juste au pied de l'hôtel de ville, sur les quais. Il y a de gros embouteillages à cet endroit-là. Ça passe juste sous votre bureau.
C'est vrai.
Et je me suis toujours dit, elle est courageuse quand même, Anne Hidalgo, parce que tous ceux qui passent sous son bureau la maudissent.
Mais ceux qui passent en vélo sur la rue de Rivoli me disent bravo. Voilà, en fait, je pense que c'était nécessaire. Paris était vraiment trop envahi par les voitures, trop pollué. Donc on est en train de prendre un autre chemin. Il n'y en a pas d'autre possible, d'ailleurs, dans une ville comme la nôtre. Et ensuite, il faut offrir des alternatives. Voilà. Évidemment que des gens auront besoin de circuler en voiture.
Oui, puis le soir, on pourrait rendre la ville à la voiture. Par exemple,
soir,
dans la journée, ok, mais le soir...
Mais allez. Vous prenez le taxi, non ? Pourquoi ? Non,
non le taxi. Bien sûr, mais voilà. Tout le monde peut pas prendre un taxi.
Et oui, mais voilà. Les jeunes, en général, ils se baladent quand même plutôt... en vélo, à pied, dans les transports en commun. Bon, même si là, les transports en commun sont encore...
Oui, mais les gens âgés comme moi...
Oh, je rêve.
On en parle.
Je rêve.
On en parle après ça.
Même moi, je fais du vélo. Le bruit est revenu aussi, hein.
Oui, le bruit est revenu, Anne Hidalgo. Ouais. C'est le signe de la vie.
Oui, c'est vrai. Après, bon, c'était pas mal quand on n'entendait que les petits oiseaux.
Mais vrai, bon, ça avait son charme.
Les humains font du bruit et c'est normal.
Là, on est sur l'allée centrale du boulevard de la Villette, donc ouais. Avec des arbres de chaque côté. C'est une voie piétonne. Les voitures circulent à droite et à gauche. Le boulevard de la Villette, ça me fait penser qu'il n'y a pas loin l'entrée de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile,
oui.
Le PADA.
Oui.
On l'appelait le trottoir des 40 000, on l'avait baptisé comme ça. C'était au moment de ce qu'on a appelé la crise des migrants. Mm-hmm. Et il y avait, disait-on, 40 000 migrants qui avaient dormi sur ce bout de trottoir dans l'attente du précieux papier leur permettant de rester en France. Beaucoup de réfugiés à l'époque...
C'était scandaleux d'ailleurs, parce que de les voir dans cette situation, on avait, voilà, il y avait des sortes de bâches pour essayer de les protéger, éventuellement un peu de la pluie, mais c'était quand même inadmissible. Enfin, je trouve que ce moment, on est dans un quartier qui a été, d'abord qui est un quartier, boulevard de Belleville, de la Villette, on est quand même sur des lieux qui sont des lieux où toutes les diasporas du monde... passe par ici.
Ils sont venus s'établir à un moment ou à un autre.
Bien sûr, et voilà, et ça donne Paris à l'arrivée, hein. Donc c'est pas rien, c'est pas une petite affaire.
Et ça donne Anne Hidalgo, puisque vos parents sont arrivés eux-mêmes,
oui,
et vous, dans leurs bras, vous avez 2 ans, voilà. D'Espagne. Ouais. Au moment même, vous arrivez, je crois, au moment même où reviennent tous les Français rapatriés d'Algérie.
Oui, c'est pile à ce moment-là, fin 61, quoi, donc pile à ce moment-là. Et c'est vrai que ce sont des endroits où l'histoire de l'immigration fait partie de l'histoire familiale. Et c'est vrai que de voir dans ce lieu cette crise de l'accueil des réfugiés avec les difficultés du côté des institutions, hein, parce que la population de ces quartiers, elle a toujours été hyper solidaire. Elle a spontanément organisé de l'entraide, du soutien, des petits déjeuners.
À l'époque, on est en 2015, là, ce qu'on appelle la crise des migrants, c'est plutôt une crise de l'accueil, en fait, en Europe. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça par rapport à d'autres époques. C'est juste qu'on n'a plus du tout envie de les accueillir. Vous êtes une des seules, d'ailleurs, à ce moment-là, qui met en avant l'humanisme plus que la...
Les valeurs de Paris et les valeurs de notre pays, parce que vraiment, j'avais le sentiment de... qu'on était en train de revisiter nos albums familiaux.
Mais c'est eux qu'on retrouve encore aujourd'hui, en partie dans des campements de fortune au bord du périphérique, dans le nord de Paris, des hommes, des femmes, des enfants. Le dernier a été démantelé en janvier, porte d'Aubervilliers, par le ministre de l'Intérieur.
Oui, et là aussi, c'est...
Il y a eu quand même 60 opérations depuis 5 ans.
Sur lesquelles, avec mes équipes, avec Dominique Versini, qui est une femme remarquable... Mon adjointe chargée de la solidarité et toutes les associations humanitaires, on s'est battu pour que les conditions de ces mises à l'abri soient vraiment de la mise à l'abri et pas juste de l'évacuation et du contrôle policier. Mais c'est vrai que dans une ville comme Paris, dans un pays comme le nôtre, on n'a pas été submergé par... c'était pas des millions de personnes qui arrivaient...
Non, mais en même temps, les Parisiens n'avaient pas envie de voir... des campements au bord du périphérique.
Ils n'avaient pas
coup,
envie.
C'était nous ramener à des images de misère auxquelles on n'était plus accoutumés,
et
qu'on ne voulait plus voir.
Ils nous ont beaucoup poussés. Par exemple, sur cette question-là, je me souviens à l'époque, les sondages d'opinion, c'était en France, grosso modo, 60% des Français pas d'accord avec l'accueil, 40% d'accord. Et à Paris, c'était l'inverse. 60% des Parisiens qui voulaient qu'on mette en place... de la solidarité, un accueil humanitaire digne. Et c'est ce qu'on a fait, puisqu'on a ouvert un centre humanitaire. Ça a été une expérience incroyable de mobilisation d'architectes de l'urgence qui nous ont aidés à construire ce qu'on a appelé la bulle et ce centre humanitaire. On avait les associations Emmaüs qui étaient là et des centaines de bénévoles qui venaient de tout Paris et de toute l'Île-de-France pour venir accueillir. Ce sont aussi des...
Mais pourquoi alors en retrouvait-on autant dans des campements de fortune au bord du périphérique avec leurs femmes et leurs enfants?
Alors, tant que la bulle a existé, tant que le centre humanitaire fonctionnait, c'est-à-dire en gros jusque... Enfin, de octobre 2015 à l'été... Enfin, à mars, pardon, 2018, on a accueilli plus de 23 000 personnes dans le centre humanitaire. Et on a pu réduire considérablement tous ces campements. Mais à partir de 2018, le gouvernement me demande, enfin me dit qu'ils arrêtent et qu'ils veulent fermer ce centre humanitaire, qu'ils ont des solutions plus efficaces. J'aurais dit, moi je veux bien que ce soit plus efficace, mais il va falloir le prouver. Et à partir du moment où il n'y avait plus ce centre humanitaire, on a vu se reconstituer tous les campements. Vous avez vu là ?
Là, on est devant une plaque. Ici, des milliers de volontaires français et étrangers sont passés de 1936 à 1938 pour s'enrôler dans les brigades internationales afin d'aider la République espagnole. Il faut dire qu'on est au pied du siège du Parti communiste, célèbre bâtiment d'Oscar Niemeyer, le grand architecte brésilien, avec sa bulle blanche.
Ouais.
On est place du colonel Fabien. Là où autrefois avaient lieu les combats d'animaux. Il y a des combats de taureaux ici.
Oui, oui.
Et ça aussi, ça me rappelle quelque chose.
Oui. Mais c'est pas pour ça qu'il y a la plaque.
Non, mais il y en a une autre sûrement quelque part, parce que les combats d'animaux étaient très célèbres ici. Des combats avec des ours, avec des... entre animaux aussi, beaucoup. Ouais. Une chanson que j'aime beaucoup, qui s'intitule Paris Blues. Une chanson que peuvent comprendre la plupart de ceux qui sont arrivés ici en tant qu'immigrants, quelle que soit l'époque. Paris Blues, c'est chanté par Tony Middleton en 1966.
Frédéric Taddeï se balade avec Anne Hidalgo sur Europe 1.
Paris Blues, follow me each place I go. There's no place to hide, I know. I'll never be free.
C'était Tony Middleton qui chantait Paris Blues sur une musique de Klaus Ogerman.
Frédéric Taddeï se balade avec Anne Hidalgo sur Europe 1.
Nous remontons l'avenue Mathurin-Moreau en direction du parc des Buttes de Chaumont, qui lui aussi rouvre, Anne Hidalgo.
Pour le plus grand bonheur.
Le plus grand bonheur. Vous parliez tout à l'heure de la densité de Paris, plus de 20 000 habitants au kilomètre carré. C'est vrai que Paris est une des villes les plus densément peuplées du monde.
Oui. Hein.
C'est-à-dire qu'on est sixième, je crois, derrière Dhaka, Bangladesh, Manille, Shanghai,
Mumbai, on doit être,
Bombay, Mumbai aujourd'hui.
Ouais.
C'est-à-dire que des villes d'Asie.
Oui.
Et juste après, il y a Paris.
Ben oui, grâce au baron Haussmann d'ailleurs, hein, parce que on le doit vraiment à Haussmann. Le fait qu'il ait, avec ses îlots haussmanniens, avec cet habitat très très serré mais en même temps avec ce dessin de rue dans laquelle s'organise aussi la vie.
Ce qui fait qu'on est dans une ville très densément peuplée et où on respire et où on vit très agréablement.
Oui, parce
que... C'est quand même le génie d'Haussmann, ça.
C'est le génie d'Haussmann, ce qui... Alors, moi, ce qui me fait dire deux choses. Bien sûr, trop nombreux, trop de promiscuité, c'est plein de problèmes et on en sait quelque chose quand même à Paris. Mais en même temps, des villes pas denses sont des villes dans lesquelles la vie est beaucoup moins agréable parce que la densité d'une ville comme Paris organisée avec ses rues, ses places, des allées d'arbres, tout ça a été vraiment très très bien.
Oui, il en a fait une ville verte, hein, avec des squares, des jardins.
Aussi. Mais c'est aussi une ville qui a des commerces de proximité parce que ce qui fait vivre les commerces dans les rues, c'est quand même le fait que les gens viennent directement dans la proximité, acheter. Et quand on va dans des villes, moi je me sens souvent pas très à l'aise dans des villes. En fait, je suis complètement perturbée par le modèle haussmannien, mais perturbée positivement, où il y a quelque chose, je trouve, d'un équilibre entre la hauteur des bâtiments, la largeur des rues, qui pour moi est la perfection. Voilà.
Pour tous les Parisiens.
Et pour tous les Parisiens. Et quand je sors et que je vais dans une ville où tout d'un coup je vois l'immeuble un peu bas et la rue très très large, je me dis, il y a un truc qui ne va pas là. Et donc du coup, c'est vrai que pour moi, c'est un modèle de ville idéal quand même.
Mais c'est vrai que Haussmann peut paraître un modèle. Dieu sait si on l'aime aujourd'hui, on ne l'aimait pas tant que ça à l'époque.
À l'époque, il a massacré un peu quand même. Hein.
Bah, il a ouvert la ville qui... Jusque-là, était encore la ville du Moyen-Âge, on va dire.
C'est vrai.
Mais avec une réussite extraordinaire dont on bénéficie encore aujourd'hui, jusque dans le choix des matériaux.
Bien sûr.
Et là, on pense à la responsabilité qui est la vôtre, parce que à chaque fois que vous refaites un trottoir ou que vous faites une place, et vous en faites beaucoup aujourd'hui, des places, vous savez bien que les choix que vous faites aujourd'hui, dans 50 ans, peut-être qu'on vous les reprochera, ou au contraire, on vous adorera d'avoir choisi tel kiosque à journaux plutôt que tel autre.
C'est pour ça qu'il faut être un peu visionnaire et essayer d'anticiper, mais même sur des choses très simples comme le choix des essences d'arbres que l'on plante. On s'est aperçu justement avec des pneumologues, avec des gens qui ont travaillé sur les histoires d'allergies et de pollution, qu'en fait, il faut qu'il y ait une diversité dans les plantations et qu'on intègre cette question des allergies dans les plantations des arbres. Parce que les arbres plantés il y a une trentaine d'années à Paris ont plutôt poussé des formes, enfin des espèces d'acacia, etc. ont plutôt poussé à quelque chose qu'on subit aujourd'hui, même si ces arbres sont très beaux, qui est la pollution et les allergies au pollen. Donc même dans la plantation des essences d'arbres, on sait qu'on va avoir un impact pour au moins les 30, 40, 50 ans qui viennent. Donc c'est une grande responsabilité.
Europe 1, 11h30, en balade avec Anne Hidalgo, Frédéric Taddeï.
François, bonjour, ça va, tu vas bien?
Pardon.
Contente de venir chez toi.
C'est François Daigneau, le maire du 19e arrondissement, on est sur votre terre.
Bienvenue dans le 19e arrondissement, qui gagne à être mieux connu.
Oui, c'est vrai.
J'ai vécu longtemps.
C'est vrai.
Quand vous le connaissez, vous l'aimez. Alors,
parmi tous les maires d'arrondissement qu'on aurait pu rencontrer, pourquoi François Daigneau?
Parce que François est un pilier. D'abord, François, c'est le 19e, c'est... un arrondissement très populaire avec des quartiers populaires et François porte...
Et des quartiers chics aussi.
Et des quartiers chics, mais il a porté et il continue à porter les transformations de cet arrondissement avec un grand respect de la population qui y habite et avec un grand souci aussi de cette mixité sociale qu'on recherche.
Moi, j'essaie d'être le maire de tous les 19e. Voilà, c'est la richesse de cette ville, d'avoir des arrondissements qui, effectivement, rassemblent des quartiers très différents, des sociologies très différentes, des ambiances très différentes, et en même temps, qui ont plaisir à partager un même avenir. Voilà.
Là, on croise la rue Georges Lardénois, qui est une des rues les plus chics du 19e. quelques grands réalisateurs de cinéma qui habitent dans cette rue.
Avec une vue magnifique, mais il faut la garder un peu secrète.
Voilà, et pas loin, il y a la rue Manin, très chic aussi, très bourgeoise. Non, moi, je suis content de vous voir, c'est que vous avez été longtemps l'adjoint au maire sous Bertrand Delanoë, chargé de la propreté du traitement des déchets. Ça a duré 12 ans.
Non, 6 ans.
6 ans,
5 ans même. 5 ans.
Enfin, vous êtes un professionnel du nettoyage. Et Dieu sait si Paris, aujourd'hui, est conspué. Et vous le savez, Anne Hidalgo, on reproche à cette ville d'être parmi les plus sales d'Europe.
Il y a eu un grand article. Ce qui n'est pas vrai.
C'était quoi dans le Guardian hein, voilà. Et puis, c'est vrai que quand vous discutez avec les Parisiens, et je dois avouer que quand j'ai dit que j'avais rendez-vous avec vous, on me dit lui bien que
c'est
les trottoirs sont sales.
Ouais,
alors, qu'est-ce qui se passe c'est...
François, toi,
comment vous l'expliquez
là-dessus.
Premier élément, on va faire un peu d'analyse pour comprendre la situation. Il y a un rapport étroit et évident entre la densité d'une ville et le niveau de souillure de ces espaces
publics. On en parlait justement de la densité.
Je comprends très bien. Plus on est nombreux à partager, à utiliser un même espace, plus on a de chances qu'il soit sali. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés, avec un effet paradoxal aussi, c'est que nous avons, année après année, projet après projet, requalifié de façon très agréable des quartiers entiers de Paris,
des places
que les Parisiens se sont réappropriés. Et donc, évidemment, ce sont des lieux où convergent tous les risques de salissure de la ville. La recette, elle est simple, et c'est celle qu'avec Anne Hidalgo, nous mettons en place à l'échelle de Paris et dans les arrondissements, c'est mieux nettoyer et moins salir. Les deux vont ensemble. Mieux nettoyer, parce qu'il faut s'adapter en permanence à une ville qui elle-même...
Tous les jours et toutes les nuits.
...dans sa façon de vivre. On mange davantage dans la rue. Malheureusement, il arrive qu'on vit aussi un petit peu dans la rue.
On s'amuse dans la rue. On n'a plus le droit de fumer à l'intérieur, donc on fume dans la rue.
Ouais, voilà. Et on jette ses clopes.
Donc ça nous oblige à démultiplier...
68 euros.
...nos moyens d'intervention. Et puis moi, j'ai toujours assumé, on ne m'a pas toujours compris ou c'est jamais très agréable à entendre, mais moi, je l'assume. Et les élus sont là aussi pour dire des choses qui, parfois, fâchent. Il faut aussi que tout le monde nous aide à moins salir la ville. Il n'y a pas de secret.
Vous pensez que les gens salissent plus qu'ils ne salissaient autrefois ?
Ce que je sais, c'est que ce qui est au sol ne tombe pas du ciel.
Ouais. Voilà. Donc, et que parfois, il y a quand même une volonté de certains, parfois même les mêmes qui nous disent « c'est sale », que je vois laisser leurs chiens s'en ramasser derrière. Quoi.
Mais il y a aussi l'idée que peut-être que les gens sont de moins en moins soigneux, mais il y a aussi l'idée qu'après tout, ils payent leurs impôts et que donc c'est pas eux de nettoyer.
Oui, et ça c'est une mentalité qu'il faut absolument changer, parce qu'on voit bien dans la ville telle qu'on la vit, avec il y a 5 500 000 personnes par jour dans Paris, 2 200 000 habitants, 5 500 000 personnes par jour, entre les touristes, ceux qui travaillent, etc. Donc ça veut dire que la propreté est vraiment l'affaire de tous. Et ça commence, comme l'a dit François Dagneau, par ne pas salir. Après, à nous de mettre les moyens, de nous adapter, d'être plus agiles. Et d'ailleurs, moi, je veux vraiment que cette question de la propreté, qui est une question qui doit se traiter dans la proximité, soit beaucoup plus portée par les maires d'arrondissement. À moi de leur donner les moyens, bien sûr. Mais je pense que c'est à ce niveau-là aussi qu'on pourra être plus efficace.
Je crois en effet que efficacité rime avec proximité, notamment sur ce sujet.
Ouais.
Le retour local, c'est le grand mot en ce moment.
Bah oui, mais en fait, vous savez, Frédéric, depuis, on a souvent dit là, avec la crise du Covid, l'État n'a pas tiré tous les enseignements de la décentralisation, ce qui est vrai, parce qu'on a vu quand même aussi une bureaucratie à l'œuvre qui est, pardon du terme, mais totalement flippante. Mais je pense qu'à la ville, on doit aussi tirer les leçons d'une plus grande déconcentration vers les arrondissements. En tous les cas, c'est ce que je veux faire, pour qu'il y ait plus d'agilité aussi dans nos interventions.
On se retrouve juste après les infos avec Anne Hidalgo. On continue notre balade.
Europe 1. En balade avec Anne Hidalgo, Frédéric Tadier.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, dans un Paris qui renaît.
Hein, oui.
Qui sort du sommeil qui lui avait été imposé pendant le confinement. Les parcs et les jardins rouvrent. On a juste à côté de nous le parc des Buttes Chaumont, 25 hectares d'espace vert avec son faux paysage de montagne réalisé sous Napoléon.
C'est vrai.
Ben, ça rouvre, ça y est, les gens reviennent. Et puis à droite, François Dagneau, vous me disiez que c'était, ça avait été un centre de dépistage.
Alors nous sommes du COVID. Devant la Fondation Rothschild, un très bel établissement et un partenaire des réseaux de santé parisiens et locaux. Et au tout début de l'épidémie, grâce au partenariat que nous avons noué avec les réseaux de médecine de ville.
Et je rappelle que vous êtes Rothschild, le maire du 19e arrondissement, François Dagneau.
Nous avons pu en urgence ouvrir ici un centre de consultation gratuite. Et ça s'est avéré d'autant plus utile que nous avons réalisé qu'un nombre important de nos concitoyens pouvait être sans médecin traitant au moment même où certains médecins étaient eux-mêmes en arrêt. Et donc il était important pour des personnes présentant des symptômes ou simplement un peu anxieux, il y en a eu beaucoup aussi, de pouvoir consulter rapidement, gratuitement, sans barrière de coût. Et donc ça a été une contribution locale très utile et très précieuse.
Oui.
Le 19e arrondissement fait partie des arrondissements que fréquentent beaucoup les jeunes. C'est un arrondissement assez festif. Ça aussi, c'est un sujet, hein, la nuit à Paris.
C'est un sujet, et d'ailleurs, les maires d'arrondissement et François Dagneau,
en
savent quelque chose et portent aussi la voix de ceux qui voudraient dormir tranquillement.
Voilà, mais le problème, c'est ça.
Et donc, il faut trouver un équilibre.
Voilà. Les gens veulent dormir tranquille. On dit qu'ils se sont pas mal embourgeoisés aussi, les habitants du 19e arrondissement, comme ceux du 11e arrondissement. Le mètre carré étant plus cher, on veut peut-être plus de calme. Et puis il y a aussi tous ceux qui veulent sortir, qui veulent vivre la nuit. Et parfois on entend des sirènes comme celle-ci, y compris la nuit.
Les Parisiens sont assez souvent fidèles à l'image qu'ils ont en général, c'est-à-dire qu'ils adorent faire la fête un peu plus loin que chez eux, mais ils n'aiment pas qu'on vienne faire la fête en bas de chez
eux. Not in my backyard, disent les Anglais.
Ouais.
Bon, faut trouver des points d'équilibre, il faut que ça reste vivable pour tout le monde, et donc il faut à la fois qu'on puisse vivre et profiter des magnifiques espaces, je pense au bassin de la Villette, ou au parc que nous avons notamment dans ce quartier, et ailleurs dans Paris, mais il faut aussi évidemment respecter, préserver un droit à la tranquillité des habitants. On a tous des rythmes, pas forcément compatibles au même moment, en même temps. Il faut que chacun fasse attention aux autres. Je crois que d'une façon générale, c'est le secret d'une ville où on vit bien ensemble.
Mais on a essayé un truc quand même, on a essayé quelque chose qui a été assez utile. J'ai eu pendant tout ce mandat un adjoint à la nuit, Frédéric Ocard, qui a mis en place aussi un conseil parisien de la nuit avec tous les acteurs de la nuit, avec les collectifs de riverains. Et je pense qu'on a quand même trouvé des solutions
à la
de médiation, de règles du jeu. Tous les acteurs sont plutôt...
Une règle du jeu qui m'a toujours paru frapper au coin du bon sens, c'est que on sait depuis Hemingway que Paris a été une fête.
Oui.
et ça s'est pas arrêté avec Hemingway, heureusement. De tout temps, il y a eu une vie nocturne très riche à Paris. Est-ce qu'on pourrait pas dire tout simplement que quand vous achetez un appartement, que vous louez un appartement dans un endroit où il y a du bruit, des boîtes de nuit, des clubs, des bars, vous pouvez plus difficilement vous plaindre du bruit. Après tout, vous n'étiez pas obligé de venir ici, que dans un quartier où, effectivement, c'était un quartier calme, il n'y avait rien, et puis tout à coup, ouvre un bar ou une boîte de nuit, et on sait aujourd'hui que nous ne pouvons plus fumer à l'intérieur, les gens vont dehors, donc il y a plus de bruit, etc., etc. Mais voilà, il pourrait y avoir une règle
d'antériorité,
oui, tout simplement.
Ce qu'on essaye de porter vis-à-vis de tous ces riverains. Après, on essaie quand même de faire baisser quand même le niveau sonore à partir d'une certaine heure. Mais j'ai pas
un équilibre. Et puis, c'est aussi le propre d'une ville dense que de mélanger en permanence les fonctions, les rythmes de vie. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de compartimenter trop la ville. Mais on arrive globalement. C'est parfois plus compliqué à certains moments. La saison que nous connaissons actuellement, sortie de confinement, de belles soirées, de belles journées, donne évidemment envie à tout le monde de profiter du grand air qui a beaucoup manqué. Mais il faut le faire dans une démarche respectueuse de l'environnement et des gens qui habitent à côté. Ouais,
je me suis toujours demandé, là on est à côté du parc des Buttes Chaumont, je me souviens qu'il fut un temps, il y avait le Rosa Bonheur,
c'était
un endroit
qui
faisait à la fois bar, boîte de nuit, et quand on allait au Rosa Bonheur le soir, on pouvait aller dans le parc des Buttes Chaumont, parce que tout simplement il était devant nous et rien ne nous empêchait de... Et je me dis, pourquoi le parc des Buttes Chaumont, vous êtes ravis qu'il rouvre enfin, mais pourquoi il n'ouvre pas la nuit?
Il ouvre la nuit, depuis que Anne Hidalgo l'a décidé. Au beau jour, il ouvre toute la nuit, il reste ouvert toute la nuit.
Toute la nuit.
Depuis deux étés,
Oui.
Ah ben vous voyez, j'avais même pas remarqué, je deviens vraiment vieux.
J'ai travaillé avec les maires d'arrondissement sur l'ouverture toute la nuit de plusieurs parcs. Et d'ailleurs, ça a été très utile dans les périodes de canicule, hein, parce que là, pour le coup, être dehors, ça faisait du bien. Et c'est plutôt une réussite parce que bon, certains maires d'arrondissement, pas ici, mais étaient très craintifs de cette ouverture des parcs la nuit en disant il va y avoir beaucoup plus de délinquance, etc.
Comme en si fait, on attendait la nuit pour...
Oui, en fait, quand il y a du monde dehors, mon principe, c'est que la sécurité, elle dépend aussi de l'occupation de l'espace public. Si les gens se promènent, s'il y a des groupes... Quand vous marchez dans une rue et que vous êtes tout seul, vous avez plus peur que quand vous êtes entouré de plein de gens. Donc du coup, ça a été plutôt une réussite, ces ouvertures de parcs la nuit.
Nous sommes à Avenue Bolivar. On se retrouve juste après une pause. Nous sommes donc à Avenue Bolivar, devant le parc des Buttes-Chaumont, avec... Anne Hidalgo, qui a toujours son masque, et François Dagneau, le maire du 19e arrondissement, toujours masqué également. Masqué. On est juste devant une station-service que je connais bien, parce que j'ai habité pas loin d'ici. Et c'est l'une des dernières. Hein. Oui. J'ai l'impression que le nombre de stations-service à Paris a été divisé par 3, au moins en 20 ans, 25 ans. Le pire, c'est dans le centre, il n'y en a plus qu'une dizaine. Si on prend les 7 premiers arrondissements de Paris, je crois qu'il y en a moins de 20.
Oui c'est vrai.
Alors c'est quoi? C'est politique ou c'est économique?
Non, c'est d'abord parce qu'il y a de moins en moins de voitures quand même à essence.
Donc ça c'est le côté économique?
C'est le côté économique et l'évolution. Parce que c'est difficile aussi. Les stations-service sont en général appréciées des automobilistes, mais pas trop des gens qui habitent au-dessus ou à côté. Donc il n'y a pas grand monde non plus pour défendre leur présence. Après, il faut garder ce qui est nécessaire pour continuer à alimenter les véhicules thermiques, dont je rappelle quand même que nous avons voté à l'unanimité du Conseil de Paris qu'en 2030, il n'y aura plus de véhicules thermiques à Paris, donc plus de véhicules essence. Et à partir de 2024, il n'y aura plus de véhicules diesel non plus. Donc,
vous savez qui habitait d'ailleurs au-dessus de la station de service là?
Non.
Ben, c'était Landru.
Ah oui, d'accord.
On est au 41. On est au 41. Et là habitait Landru. Alors, je sais
vous
pas.
Savez,
je crois pas que c'était le même immeuble.
J'étais pas maire à l'époque. Hein.
C'était pas le même immeuble, mais c'est qu'elle habitait. C'est sans doute. Il est né ici en fait.
Ouais.
Hein. Il n'y a pas de plaque. Il n'y a pas de plaque pour Landru.
Bon, bah ça.
Mais c'est peut-être parce qu'il y a cette station-service qu'il allait s'aérer à Gambet, allez savoir.
On mettra une plaque. Ici, J, la dernière station-service et Landru.
Quand on est maire de Paris, est-ce qu'il faut tout prendre de la mémoire de cette ville ou est-ce qu'il faut retenir que les cartes postales est-ce qu'il faut prendre tout ce qu'elle a inspiré aux artistes du monde entier que ce soit les mystères de Paris, le spleen de Paris ou le dernier tango à Paris?
Ah oui, il faut... Je
et
pense
pas seulement
faut...
Douaneau et...
bien sûr, au contraire, il faut vraiment... Pour comprendre cette ville, il faut aussi la comprendre à partir de ce qu'elle a inspiré.
Même de plus tordu.
Même de plus tordu, bien sûr, parce que d'abord, c'est une ville qui est quand même incroyable, extraordinaire par le mélange. Moi, ça m'a toujours fasciné de voir que dans cette ville, finalement, les gens venaient chercher ici une inspiration, un refuge. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont venus, beaucoup de philosophes, beaucoup d'hommes et femmes politiques qui se sont réfugiés ici. Et tout ça
y compris
donne...
des futurs dictateurs, il faut
y compris, bien sûr. Et tout ça donne quand même à l'arrivée quelque chose qui s'appelle Paris. Et qui est le produit de toutes ces histoires-là et de toutes ces influences.
Je voulais vous entendre me dire ça avant de passer
bonjour.
Le prochain disque. C'est Last Tango in Paris, la musique du film, mais ouais. Avec des paroles interprétées par une grande chanteuse de soul, Marlena Shaw.
Frédéric Taddeï se balade avec Anne Hidalgo sur Europe 1.
We are two illusions who touch in a trance, making love not by choice but by chance, to a theme that we tore from the past, to a tango we swore was the last. We don't exist, we are nothing but shadow and mist. In the mirror we look as we pass, no reflections revealed in the glass.
Don't you know that the blood in your vein is as lifeless as yesterday's rain? It's a game where we come to conceal the confusion we feel. Long as we're nameless, our bodies are blameless. You cried when we kissed. It was nothing, shadow and mist. Two illusions who touch in a trance, making love not by choice but by chance. To a theme that we tore from the past, to a tango we swore. Shadow and mist, two illusions who touch in a trance, making love not by choice but by chance, to a theme that we tore from the past, to a tango we swore was the last. We are shadows of day.
C'était Last Tango in Paris, chanté, je crois bien qu'elle est la seule d'ailleurs à l'avoir chanté, par Marlena Shaw. Un film que vous avez vu, François Dagneau ?
Pas récemment.
Le dernier tango à Paris, ben là, le film, ça ne pouvait pas être le dernier tango à Rome, ni à Londres, ni ailleurs. Pourtant, ils sont tous étrangers quasiment, hein, ceux qui ont fait ces films. Mais ça n'aurait pas pu être tourné ailleurs. Ça, c'est Paris, mais dans le côté sombre, noir, ce qu'on projette sur cette ville.
C'est vrai, mais ça fait partie aussi de cette ville. Je pense que c'est une ville dans laquelle on peut trouver une inspiration très positive, très optimiste. Ça, voilà, ça existe aussi. Et puis, c'est aussi une ville qui vous renvoie peut-être plus que d'autres à votre solitude, à l'isolement et à la difficulté de trouver son chemin. Donc, c'est vrai que toutes ces inspirations font Paris, font notre histoire.
Et c'est une ville où on tourne beaucoup de films.
Oui.
En temps normal, et la ville de Paris facilite les tournages dans Paris. C'est pas toujours facile là non plus, mais c'est aussi un secteur économique, et puis c'est une façon pour cette ville d'assumer sa vocation universaliste et son ouverture aux artistes et au cinéma en général.
Vous avez été, Anne Hidalgo, inspectrice du travail. Est-ce que ça vous a aidé ensuite à devenir maire ?
Oui, en fait, je puise beaucoup dans cette expérience-là, parce qu'un inspecteur du travail, bon, c'est quelqu'un qui est là pour faire respecter la loi, mais qui part de réalités très concrètes, donc qui est en permanence une recherche aussi d'adaptation au monde réel. Et puis, c'est quelqu'un qui, de fait, c'est mon cas, connaît bien les réalités sociales, connaît bien ce qu'il y a derrière le décor, l'envers du décor, parce que quand vous voyez comment se fabriquent les choses, ça vous donne quand même une connaissance de la complexité et de la réalité qu'on n'a pas forcément, parce que ça ne s'apprend pas que dans les livres, même s'il faut faire des études assez longues pour être inspecteur du travail.
Oui, d'ailleurs, vous étiez dans les premières femmes à l'être, je crois.
Oui.
Et on voit ça plutôt comme un métier de gauche, un métier protecteur.
Oui,
vous avez connu des inspecteurs du travail de droite ?
Il y en avait quelques-uns, mais en fait, c'est vrai que moi, c'est vieux tout ça, mais c'est dans les années 80, j'ai fait mes études de droit, je voulais absolument être inspectrice du travail, parce que j'avais fait un stage avec des inspecteurs à Saint-Étienne, qui étaient tous des militants, des militants de la cause sociale, et donc c'est vrai que c'est plutôt un univers... À l'époque où j'ai exercé, qui était très progressiste et très protecteur, ouais.
Et vous, François Dagneau, avant d'être maire, vous avez eu un métier ?
J'ai travaillé, mon premier job à Paris a été dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et il y a une filiation finalement directe parce que cet arrondissement est très fier de sa vocation tournée vers l'économie sociale et solidaire. Cette économie qui produit de la valeur en portant des valeurs. Et voilà, ça parle assez bien de ce territoire et de ce que nous essayons d'y être ensemble.
On longe un grand chantier là.
Ouais.
Alors là aussi, c'est un dossier. Pourquoi il y a tant de chantiers de travaux à Paris ?
Celui-ci, pardon.
Ça, vas-y, vas-y.
Oui, alors ce chantier, c'est le chantier de la RATP pour la prolongation de la ligne 11 du métro. C'est un chantier d'envergure, en effet.
Voilà, qu'on finance beaucoup, hein, que Paris
la
finance.
La ville participe évidemment à son financement. Et c'est aussi une façon de proposer des alternatives plus confortables à la voiture pour les gens qui viennent travailler ou se divertir à Paris. Et il est important que cette Ligue 11 soit plus accessible et plus confortable.
Mais vous avez remarqué quand même, là, il y a une recrudescence depuis quelques années incroyable de chantiers.
Oui, mais une ville... Moi, vous savez, avant d'être maire, j'étais première adjointe de Bertrand Delanoë. Et en 2008, je prends le portefeuille de l'urbanisme et de l'architecture. Et on me dit, il faut absolument que tu remettes des grues dans Paris... Parce que c'est aussi un signal d'attractivité, de transformation de la ville, d'économie prospère. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut faire attention. La gestion des chantiers doit certainement être encore mieux organisée, doit être mieux programmée, même si c'est complexe. Mais une ville qui ne se transforme pas, ça vous donne une ville qui périclite. Hein, donc voilà.
On se retrouve dans un instant avec Anne Hidalgo. On va terminer cette balade rue de Belleville.
Ouais.
Frédéric Taddeï se balade avec Anne Hidalgo sur Europe 1.
Nous descendons par un soleil radieux, la rue de Belleville. Tout au fond, là-bas, il y a la Tour Eiffel.
La Tour Eiffel, oui.
Voilà. On a l'impression qu'on descend une colline. Et ben, c'est normal, puisque c'en est une.
Ouais.
C'est une colline. Et c'est là qu'avait lieu le carnaval de Paris,
oui,
au 19e siècle. Vous n'avez jamais eu envie de remettre... Vous qui aimez bien le côté festif.
Comment ça?
Oui, l'animation sur l'hôtel de ville.
On l'a fait. Hein, on a soutenu longtemps un carnaval, d'abord ici, d'ailleurs, qui passait ici avec... le bœuf gras, voilà. Surtout, on a mis en place un carnaval tropical, donc premier dimanche de juillet, et qui vient, non pas à Belleville, mais qui va sur les Champs-Élysées. Et
il aura lieu cette année, parce qu'on beaucoup d'entre nous ont des masques, mais ce n'est pas des masques de carnaval.
On va essayer. En tous les cas, on n'a pas encore tous les éléments là-dessus, mais c'est un très, très grand événement. Et participe d'ailleurs beaucoup de groupes de toutes les Caraïbes, de toutes les Outre-mer, mais aussi toutes les associations ultramarines parisiennes et franciliennes. C'est un beau moment.
On passe devant le 72 avec la plaque indiquant que c'est sur les marches de cette maison que naquit le 19 décembre 1915 dans le plus grand dénuement Édith Piaf.
Ouais.
Je crois que c'est pas vrai.
Je crois pas qu'elle soit
née sur les marches de cette maison.
Ah, sur les marches peut-être pas.
Mais en tout cas, ça fait partie
dans la maison,
de la légende parisienne.
Ouais. Peut-être dans le quartier.
Je sais si elle est riche et on ne prête qu'aux riches.
Ouais.
Vous habitez où, vous ?
Moi, j'habite pas très loin du parc Georges Brassens, donc dans le 15e, limite 14e. Et c'était un peu par hasard que je suis arrivée. Souvent, quand on arrive de province, moi je venais de Lyon, on arrive dans les gros arrondissements où il y a des gares, le 12e ou le 15e, voilà. D'ailleurs, ces deux gros arrondissements, on les compare souvent à des petites provinces. Et finalement, j'y suis restée, j'y suis bien, voilà.
Quel conseil vous donneriez à une femme qui va devenir maire d'une grande ville à l'issue du deuxième tour, donc qui aura lieu en juin ? Vous avez une certaine expérience maintenant.
Oui.
Accroche-toi.
Voilà, sois toi-même et surtout...
On peut être soi-même quand on est maire d'une grande ville ?
Il faut essayer le plus possible. Bien sûr, il y a plein de contraintes, il y a plein d'éléments qu'il faut intégrer dans ses décisions. Mais je pense qu'il faut se faire confiance. C'est pas simple, hein, parce que les femmes n'ont pas vraiment beaucoup de rôle modèle. Hein, quand elles sont en politique, on n'a pas beaucoup de figures pour nous inspirer. On en a quelques-unes, comme Simone Veil, évidemment. Mais du coup, on est obligé de se faire nous-mêmes notre... notre chemin, notre voie. Et souvent, les femmes s'excusent d'exister quand elles sont dans les sphères du pouvoir. Et souvent, elles pensent qu'elles sont, qu'elles vont être contestées, ce qui est le cas d'ailleurs, souvent, parce que leur compétence est plus souvent ou mise en cause ou questionnée. Donc, qu'elles se fassent confiance et surtout qu'elle soit forte et humaine. Voilà.
Et à celle qui vous remplacerait dans l'hypothèse où vous ne remporteriez pas le second tour, donc à une autre maire de Paris que vous, vous donneriez quel conseil ?
Aimer Paris passionnément, voilà. Et les Parisiens et les Parisiennes.
Vous êtes évidemment la favorite pour le second tour. On n'est pas encore en campagne électorale. Il aura lieu à la fin du mois de juin.
Drôle de campagne
hein, qui aurait été divisée comme ça. Normalement, il y a une semaine entre deux tours. Là, il y aura eu 3 mois.
Je pense que si on avait voulu écrire un scénario pour une série télé sur la base de ce qui s'est passé depuis déjà quelques mois, personne ne nous aurait cru et sans doute on aurait retoqué ce scénario par manque de réalisme. Donc voilà.
Frédéric Taddeï se balade avec Anne Hidalgo sur Europe 1.
On a à peu près parlé de tout, Anne Hidalgo, même de la future campagne, mais sauf des Jeux Olympiques. Au fond, on est resté assez loin de là où ils vont avoir lieu. Hein. Voilà, vous y pensez
Bien sûr. D'abord parce que je me suis battue pour les avoir. Ça a été un moment très important aussi, hein, une campagne internationale où il fallait aussi se relever des attentats à l'époque.
Et de tous les échecs qu'avait essuyé cette ville pour organiser les Olympiques. Et pas seulement cette ville d'ailleurs, Lyon, Lille.
Bien sûr. Et donc c'est, je pense, une chance si évidemment on reste dans ce qu'on a souhaité, à savoir des jeux sobres, des jeux qui permettent de transformer aussi la Seine-Saint-Denis, parce que je me suis battue avec les élus de la Seine-Saint-Denis pour que l'impact principal des jeux se fasse sentir en Seine-Saint-Denis. Et je pense qu'avec la crise économique qu'on va maintenant affronter, le chômage qui revient vraiment de façon galopante, les Jeux seront aussi une opportunité d'emploi pour beaucoup de nos concitoyens et on va se battre pour que ce soit utile.
Merci Anne Hidalgo de nous avoir emmenés en balade avec vous. On est rue de Belleville. Beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, beaucoup de cafés qui vont pouvoir rouvrir à partir de demain, en tout cas en terrasse.
Ouais.
Paris va recommencer à ressembler un peu à Paris.
Merci beaucoup et c'est un plaisir de se promener avec vous et de se faire découvrir. Enfin, vous connaissez très bien vous. Hein, mais
je suis né ici. Voilà. Merci François Dagneau, donc maire du 19e arrondissement, de nous avoir rejoints. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve dimanche prochain, évidemment à 11h, pour une autre balade.
Frédéric Taddeï se balade avec Anne Hidalgo sur Europe 1.